Salut à toutes et à tous, salut tout le monde. Vous êtes bien à l'écoute de Starting Block, le rendez-vous musiques actuelles du réseau Radio Campus France. Cette semaine, bienvenue dans les studios de Radio Campus Angers, au cœur du Maine-et-Loire. Salut Nerlof.
Salut.
On va découvrir ton projet ensemble pendant cette petite demi-heure et on va commencer tout de suite par un extrait de ton album Pas si grave qui va sortir mi-mai. On écoute Quel dommage. Alors, c'est pas le morceau que tu voulais à la base qu'on choisisse, mais ça te va quand même. Ça va.
Ça va très bien. C'est
trop bien. Bah, quel dommage et on commence à discuter juste après, comme ça ça donne un petit aperçu un peu de ce que tu peux faire. Allez, quel dommage de Nerlof dans Starting Block sur les Radio Campus de France et de Navarre. On est toujours évidemment avec lui pendant une demi-heure pour présenter son projet. Étienne, le programmateur de Radio Campus Angers, me disait tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'interview, qu'un truc qu'il aimait beaucoup dans ton écriture, c'était tes punchlines, ta manière d'exprimer assez simplement des choses justes et profondes. Déjà,
ouais.
J'ai trouvé ça assez stylé comme remarque.
Ouais, je suis assez d'accord. Quand on me dit ça, je trouve que j'enfonce beaucoup de portes ouvertes, mais que c'est des petites piqûres de rappel qui sont. Enfin, ouais, quand tu mets la forme, ça te fait toujours un petit truc un peu sympa. Tu te dis, bah oui, c'est évident, mais c'est rigolo avec la façon de le dire, quoi.
Effectivement, c'est un peu une porte ouverte. Si t'es gentil, on sera copains. Si t'es abruti, laisse-moi dans mon coin.
Ouais, et en même temps, tout est dit, quoi.
En même temps, en fait, c'est très simple.
Ouais.
Tu vas chercher de la simplicité pour dire un truc quand même qui touche tout le monde.
Ouais, exactement. Bah, moi, j'écris pas une écriture très poétique, je pense. Tu vois, j'ai pas trop de métaphores. Non, c'est une écriture assez brute. C'est plutôt j'écris comme je parle. Et j'essaye de faire les choses simples. Et bah ouais, c'est un peu cette culture de la punchline. Je ne connais pas grand chose en rap, mais ce que j'ai pu apprécier dans le rap, en tout cas, c'est cette maîtrise de la punchline, de la phrase coup de poing qui te marque avec des mots simples, avec des mots de tous les jours. Mais vu comme c'est dit, c'est parfait, quoi. Tu vois, genre, quand Booba il dit quand j'ai la clé, je m'en sers pour casser le carreau, merde. Ça, je trouve ça parfait. Il y a tellement de choses qui passent à travers ça, c'est, c'est parfait.
Le rap, t'as pas trop de rapport avec, mais quand même, t'as ton pote à l'internat qui a une sorte de petite battle rock-rap.
Ouais, c'est ça. Bah, puis en plus, au pire époque, on était en quatrième, donc on avait 14 ans, on était à l'internat ensemble. Et moi, j'écoutais que du métal. Peut-être c'est une période où tu t'identifies vachement, tu te construis ta personnalité beaucoup en fonction de ce que t'écoutes. Et du coup, moi, j'étais très métal, donc skate, métal, machin. Et lui était ensemble jogging Lacoste, les trucs tout bleus ou tout machin. Sur le taquillé, écoutait que du rap. Et c'était, évidemment, on avait un poste assez, c'était la guerre. Mais on est devenus les meilleurs copains du monde, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, grâce à ça, il a pu m'éduquer au rap et j'ai pu l'éduquer au métal.
Au métal. Bon, on reviendra évidemment après sur tes influences. Mais avant, je voudrais revenir sur, on parle pas mal de toi dans la presse. Radio France a fait un petit papier, Libération aussi. Ils ont écrit sur toi. Ils disent que t'es mystérieux parce que tu veux pas dire ton vrai nom, hein. Tout le monde t'appelle Nerlov ici à Angers, que ce soit au bar ou tu travailles au Jokers, même ton petit surnom Nerly.
Je travaille plus.
Ah, tu travaillais, ouais. Tu fais de temps en temps un peu des extras. Moi, je trouve pas que tu sois hyper mystérieux parce que j'ai l'impression que c'est très facile de s'identifier à toi à travers tes textes, justement.
Ouais, je suis d'accord. Bien sûr, je me livre complètement. Il y a même un peu d'impudeur. Des fois, j'écris des trucs, j'ai enregistré. Est-ce que je suis sûr de vouloir que ça sorte, ça? Et puis bon, je trouve que pour que ça touche et que ça marche, il faut que ce soit sincère. Et tant qu'à faire, ce qu'on connaît le mieux, c'est soi-même. Et du coup, souvent, quand on écrit des choses, on parle de soi, mais en fait, ça résonne chez plein de gens, évidemment.
Mmh. Ah oui, tu parlais vraiment même d'impudeur.
Ouais, des trucs un peu impudiques, quoi. Certaines. Enfin, je parle de choses où je me dis, est-ce que j'ai vraiment eu que mes parents, ils entendent ça ou quand je bosse au Joker, est-ce que j'aurais que mon patron, il entende ça? Bon, j'ai pas. Enfin, tu vois, faut écouter pour savoir de quoi je parle, mais.
Bah, on va revenir avec Affamé tout à l'heure, dans lequel tu dis vraiment des trucs assez forts, notamment sur ton rapport à la drogue.
Non, c'est pas. Oui, bien sûr.
Bah, on va écouter tout de suite Affamé. D'ailleurs, comme ça, au moins, on va clore tout débat. Affamé, c'est un son qui va sortir juste la semaine prochaine, le 25 mars. Ce sera dispo sur toutes les plateformes. Il y aura aussi un clip.
Ouais.
Affamé sur toutes les radios campus de France. On est toujours dans Starting Block avec Nerlov.
Je manque de courage, donc je reste.
On vient d'écouter Affamé de Nerlof dans Starting Block. Est-ce que tu veux nous dire peut-être un petit mot? On parlait d'impudeur, on restait sur cette conversation-là pendant qu'on écoutait la chanson hors antenne. Toi, ça te dérange pas de donner autant?
L'écriture, c'est un exutoire, hein, clairement. Donc, quand on écoute mes textes, on peut se dire putain, lui, ça va pas, ça perd d'aller dans sa vie. En fait, du coup, ça va plutôt bien parce que du coup, j'arrive à coucher et à sortir ça de moi. Je sais pas écrire autrement. J'aimerais bien écrire des choses un peu plus fantasmagoriques, des trucs que je pourrais clairement inventer, mais pour l'instant, j'écris avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire ce que je vis et ce que je ressens.
Dans Affamé, là qu'on vient d'écouter, le ton que tu donnes, la DA même du morceau, elle est un peu différente du reste qui est très pop, un peu pétillant. Là, le ton, il est plus grave, quasiment même presque solennel. Il y avait besoin de poser un truc, quoi.
Ouais, bah il y avait aussi, le projet Nerlof, à la base, c'était essentiellement des morceaux comme Affamé. Premier EP, même deuxième EP, Prophétie, la plupart des morceaux sont quand même assez down tempo et puis assez grave, enfin c'est un peu deep quoi. Et en effet, j'avais envie de me sortir de ça, puis sortir de ma zone de confort aussi, parce que je crois que c'est quand même ce que je maîtrise le mieux en fait, ce genre de morceaux là, bien lent, bien deep, c'est là où je suis le plus à l'aise. J'avais envie de sortir un peu de cette zone de confort, j'avais aussi envie de proposer un truc un peu plus peut-être pas solaire sans aller jusque là, mais où c'est un peu plus la teuf quoi, notamment pour en concert quoi, tu vois, pour s'amuser un peu et puis sortir de ce côté un peu spleen.
T'écris en pensant au concert ou t'écris aussi avec des trucs que t'as envie de parce que toi dans cette période-là t'étais un peu plus pop, un peu plus
Ouais, non, je compose en pensant au concert, ça c'est clair, d'autant plus quand on a fait, puis tu te dis putain, c'est vrai que ça c'est cool, ça marche, ça fait du bien dans le set de mettre du relief et tout, donc je me dis là j'ai envie de faire un morceau up tempo et du coup mais l'écriture, non, par contre, je peux écrire des choses très très dark sur un morceau très festif.
Ouais.
Et j'aime bien justement cette dualité, ce petit paradoxe-là, je trouve ça intéressant.
On parlait de punchline tout à l'heure, on parlait aussi d'identification. Moi, il y a une phrase qui a vraiment fait mouche pour moi dans Quel dommage. Parfois, je suis pour, mais parfois, je sais pas.
Ouais.
Celle-là, elle a vraiment fait mouche pour moi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu toutes et tous obligés d'avoir un point de vue sur les trucs.
C'est incroyable, je trouve ça incroyable. On est obligé d'avoir un avis, on est obligé d'argumenter cet avis, et c'est pour ça que je parle notamment dans ce texte-là de Combini, en fait, tout le monde a un avis, ressort des arguments, mais qui sont pas les siens. Personne, en fait, on prend plus le temps vraiment de l'analyse et de la réflexion. Je trouve que de moins en moins, en tout cas, je me rends compte dans les débats, les gens réfléchissent de moins en moins par eux-mêmes. Ils sont toujours obligés de dire, je l'ai vu, je l'ai lu, et puis je trouve qu'à chaque fois, ça fait un peu foide. Tu sais, genre, tu lis un truc, vu que tu l'as lu, c'est la vérité, quoi. Ça, je trouve ça assez incroyable.
T'as lu Rhinocéros de Ionesco?
Non, j'ai pas lu.
C'est un bouquin, une pièce de théâtre.
Ouais, je vois le truc, ouais,
où il y a un peu de toutes les personnes se transforment petit à petit en rhinocéros parce qu'ils adhèrent tous à une idéologie qui est l'idéologie dominante.
Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est normal. Hein, en fait, c'est normal je le condamne, mais je le comprends aussi. Quoi. On a plus le temps aujourd'hui de se poser vraiment. On nous demande d'avoir un avis, mais sauf qu'on nous donne pas le temps d'avoir un avis. Du coup, on prend l'avis qui nous correspond et puis. Enfin, qui nous correspond a priori, et puis on cherche pas trop loin et on simplifie tout. Je trouve que sur beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, les choses sont hyper simplifiées. On va plus très loin dans la nuance, on va plus très loin dans le. Ça va pas chercher bien loin. Quoi. C'est très manichéen, je trouve, maintenant, les façons de penser. Je trouve que quand on était gamin, on nous a appris à surtout pas jamais généraliser, puis en fait, plus ça va, plus on généralise tout, et puis on simplifie tout pour que ce soit compréhensif, accessible et qu'on puisse prendre parti.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est même pour les personnalités politiques, c'est impossible de pas savoir. Forcément, faut qu'ils aient un avis sur un truc. Quand on accueille des gens à la télé ou à la radio, quand on accueille des personnalités politiques, on leur pose des questions sur des trucs où ils sont à des kilomètres de ça et incroyable. On leur demande quand même de prendre position sur un truc.
Je trouve ça incroyable. Je trouve ça fou qu'on puisse demander à quelqu'un de tout maîtriser, de devoir répondre à tout, absolument tout. Comme ça, du tac au tac, je trouve ça incroyable, parce que je ne comprends pas comment ça marche. Donc je pense que ce n'est pas tant les politiques que plutôt les médias, je pense que c'est surtout lié aux médias, à cette surinformation en permanence.
Et ce qui implique pour les personnes d'avoir une sorte de perte d'identité propre. Toi, tu sais qui t'es?
Mais non, du tout, je ne suis pas sûr, c'est pas qui je suis. Clairement pas, non, bien sûr. Je suis en permanence en doute, en permanence en questionnement, à chercher. Et je préfère pas savoir qui je suis. J'ai des idées, j'ai des grands principes qui sont le respect, la tolérance, voilà. Mais sorti de ça, après, je sais pas, je suis ouvert à tout. Et je ne demande qu'une chose, c'est de me faire convaincre d'être quelqu'un qui me donne un bon argument, et je suis capable de changer d'avis comme ça, sans problème.
Mmh. Dans un autre de tes sons, pas si grave, qu'on écoute là en fond, le clip, c'est une succession de personnes qui essayent de comprendre un peu qui elles sont et de se confronter un peu au regard qu'elles ont sur elles-mêmes, et t'abordes la question des complexes. C'est important, ouais, pour toi aussi de parler de ça dans cette, dans ce, voilà, il faut être toujours bien sapé, il faut toujours avoir une belle barbe, une belle moustache.
Ouais, belle moustache, surtout une belle moustache, c'est très important. c'est important de se plaire, je pense. C'est important de se plaire, et c'est, je voulais, donc dans la chanson, je chante ça, qu'on a tous nos petits complexes, machin et tout. Ça peut être un peu, ça peut être un peu facile, enfin. Genre moi je me plains pas, j'aime bien ma gueule, tu vois, je suis pas trop moche, machin et compagnie, mais il n'empêche que j'ai aussi des complexes, et je pense que tout le monde a des complexes, on a tous des complexes. C'est ce rapport à soi, en fait, et à l'acceptation de soi, peu importe, on a tous nos petits trucs, qu'on n'aime pas chez nous, quoi.
Et pourtant, dans le clip que t'as fait avec Morgane, les personnes que t'as mis à l'écran, bah vous les avez toutes rendues belles. Ouais. Enfin, elles sont belles, quoi. Bah, c'est que des gens hyper beaux.
Mais tout le monde est beau. Je pense que tout le monde est beau. On est tout le monde. Et en effet, à travers la caméra, à travers cette image, enfin voilà, le choix aussi des images, on peut rendre tout le monde très beau ou très laid, je pense. C'est un peu ce petit pouvoir là. Mais ouais, je suis d'accord. On voulait des gueules, en fait.
Il y a des gueules qui répondent plus à des standards de beauté que d'autres.
Oui. On voulait ça, ouais. Et puis on voulait des gens normaux, en fait, tu vois. Mais encore une fois, c'était un clip. On trouvait l'idée très cool. On a fait ça très vite. On aurait pu prendre n'importe qui, en fait. On a pris les gens qu'on avait sous la main comme ça, mais on aurait pu prendre absolument tout le monde. Tout le monde avait sa place dans ce clip-là. Personne plus que quelqu'un d'autre.
Là, t'allais piocher dans tes potes.
Ouais. Fallait aller vite. Fallait aller très vite. Enfin, toi, c'est toujours pareil. Hein. Faut aller vite. Faut tout faire pour hier avec 0€, quoi. Donc.
Tout à l'heure, on racontait un peu ton rapport à tes influences, que t'écoutais d'abord du métal, ta musique aujourd'hui, c'est de la pop, mais avant la pop, t'es passé par le rock, où t'as été dans des groupes angevins aussi bien connus, hein, Sheraf, Vedette, Sankarol, etc. T'as aussi fait donc du métal, et aujourd'hui, tu bosses avec Atom, hein, des gars de C2C, donc beaucoup plus cette vibe house techno. D'où est-ce qu'il vient ton éclectisme?
Il vient des rencontres, hein, des rencontres avec tes potes, tu vois. Même j'ai envie de dire, la passion pour la musique, ça vient d'une rencontre, hein, tu sais. Enfin, tout le monde a des parents qui ont écouté de la musique, machin et tout, mais ça suffit pas. Moi, il y a mon cousin qui s'est acheté une guitare, qui s'est passionné, lui, parce qu'il a rencontré un gars au lycée qui était passionné. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc-là. Et quand t'aimes bien quelqu'un, tu le regardes un peu comme ça avec des grands yeux, tu l'observes, et puis en fait, il te communique un peu sa passion, et c'est comme ça que je suis tombé fan de musique. Et le métal, quand t'es adolescent, ou comme le rap, c'est des musiques quand même très fortes, très radicales, qui te permettent de te créer un peu une identité, quoi. Rapidement, ça peut devenir fascinant. Moi, ça m'a un peu fasciné. J'étais un peu passionné par le métal. Et puis après, la rencontre avec d'autres gens, l'ouverture d'esprit. Et puis, on m'a fait découvrir. Moi, c'est encore une fois, comme je te disais, je cherche qu'à me faire convaincre. Donc, si on me dit, écoute, ça, c'est vraiment mortel, et que là, je n'aime pas, et que je comprends pas, je me dis, putain, si lui, que j'aime bien, dont j'estime les goûts musicaux, me dit que c'est mortel, c'est. Faut que j'insiste un peu. Il y a forcément un truc de cool à y trouver là-dedans.
Et là, le métal, t'en écoutes toujours?
Toujours, ouais, beaucoup moins qu'à l'époque. Mais toujours.
T'écoutes quoi aujourd'hui, si tu veux nous donner une petite playlist là, de ton top 3 des sons qui sont dans tes playlists?
Ah putain, Andrea Laszlo De Simone, par exemple. Qu'est-ce que j'écoute?
Vas-y, on va faire un petit exercice. Tu sors, ouais, ton téléphone là, et tu prends les trois premiers sons de ta playlist.
De mes titres likés.
De tes titres likés.
Attends. Peut-être pas les trois premiers, abuse pas. Attends. Je sais pas.
Est-ce que vous êtes prêts, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus France, à découvrir les trois derniers titres likés par Nerlof?
Alors, il y a Lives of Angels, The Rock Drill. Ah non, mais tu vas rien. Il y a Elle te rend dingue de Naughty. c'est genre, j'ai dû liker ça pour me dire ça peut être une connerie en DJ set. La journée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide.
Le temps s'est arrêté ici depuis.
Et il y a Got Your Way, la reprise des Pixies par Nation of Language. Et après, il y a Saint Chavant de Souffrance.
Il me reste pas mal de trucs à dire. Sur cet instru, je brutalise. La musique m'anime. À chaque son marche l'encul. Ils sont tous unanimes. À l'ancienne, tandem lunatique. Je leur dis pas je t'aime. Je leur dis suce ma pute.
Je suis allé voir pareil. Tu vois, je connaissais pas Souffrance. Et c'est mon pote, un pote rappeur, qui me fait ouais, je vais voir Souffrance au Stérolux. Tu veux venir? Trop chaud, vas-y, bah, je découvre quoi. J'ai pris une branlée.
Ouais, effectivement. En plus, t'es DJ. Tu parles de vite fait, t'es DJ 7 là, mais en plus, tu mixes.
Alors, ouais.
Un peu, quoi.
On se calme. Je mixe à l'iPhone. Non, je me fais jeter les cailloux par tous les vrais DJ. Non, je suis pas DJ. Je fais des. Enfin, j'ambiance vos soirées dansantes, quoi. Je suis une sélecta très éclectique. Je passe littéralement de je sais pas, de merde, Righteous Brothers à Booba, quoi, sans problème.
Mais comment est-ce que c'est né musicalement Nerlof, alors que toi-même t'es baigné dans tout cet univers hyper éclectique, que t'aimes tant de sons et de genres différents? Comment est-ce que c'est né l'identité Nerlof?
Eh ben, c'est né. C'est né avec la rencontre avec Atom, mais c'était déjà un petit peu là avant. J'avais déjà amorcé avec François, qui fait mon son aujourd'hui, qui est mon technicien son, qui est aussi un musicien. On avait amorcé un peu des morceaux en français. J'avais envie de faire des trucs un peu, ce que je fais maintenant. On l'avait déjà amorcé, mais un peu en dilettante. Puis j'étais quand même pas mal dans Vedette, Sainte-Carole, Chiraf. C'était un peu genre ouais, sur le côté, quoi. Et j'ai rencontré Atom au moment où un peu tous ces groupes-là s'écroulaient. C'est-à-dire qu'on arrivait un peu au bout d'un truc. On avait plus de concerts. On sortait des disques, des morceaux, mais ça marchait pas. Donc c'était un peu comme je rencontre Atom et on a pu se mettre à fond là-dedans. Je l'ai rencontré lors d'un featuring avec Rezinski à l'époque. Il m'avait invité sur un feat Pepso, qui est un vieux copain de lycée, Rezinski.
Aujourd'hui, Stav. Hein. Ouais, Stav, ouais. Ouais. Pareil, projet à venir très bientôt. On en parlera dans Star Team Block.
Carrément. Trop bien. Et du coup, c'était Atom qui réalisait son album de Rezinski. Et du coup, on fait le featuring. Atom a kiffé la vibe. Et il m'a dit, j'ai mon projet Parade. Ça te dit de venir faire un featuring? Du coup, on a fait un featuring, puis un deuxième. Puis après, on s'est dit, putain, c'est cool de faire de la musique ensemble. Vas-y, on continue. Moi, j'avais pas mal de petits morceaux de côté, lui aussi, et puis du coup on fait comme ça 5, 6, 7 morceaux, puis quand on a eu 6, 7 morceaux, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on fait un groupe, on fait, lui il est peinard posé dans son studio avec sa famille, maintenant tu vois, tourner, ça le saoule un peu, il préfère, il m'a dit mec c'est quoi c'était chansons, vas-y ça s'appelle Nerlof et c'est ton projet, je fais vas-y ok, et voilà c'est né comme ça.
Et ce truc de te confronter un peu solo au public?
Bah, je suis quand même avec un batteur sur scène, hein, toujours, donc avec Simon, le batteur de Vedette et de Sainte-Carole, on est encore ensemble.
Mais tu te présentes vraiment...
Ouais, je le faisais déjà dans Vedette, hein, mais là, c'est vrai que du coup, j'ai pas la basse, je suis vraiment... j'ai les mains libres, je suis devant, j'adore. j'adore ça, me balader, là, et puis... ouais, il y a un truc de...
Emporter le public
avec
toi.
Ouais, puis clamer un peu, j'ai l'impression d'être un...
Un crieur.
Un crieur, ouais, c'est ça. Enfin, toi, je monte, en général, je me mets un petit truc, là, un petit cube, et puis je monte dessus, et puis je crie sur les gens comme ça.
Ouais, t'es un capot, en fait. T'es vraiment le chef des supporters.
Ouais, c'est ça, exactement. Un capot, ouais.
On peut pas se finir cette discussion, Nerlof, sans parler de tes clips, toujours très léchés, avec une vraie esthétique et des partis pris hyper forts. Ça a été récompensé par le festival Premier Plan, festival de cinéma à Angers. Vous avez remporté, avec les réalisateurs Jody Gay-Morgan, le prix du meilleur clip avec Quel Dommage, donc on a écouté juste en début d'émission.
Ouais.
Bah, la récompense.
Ouais, c'est cool, carrément. Bah, puis je l'avais eu il y a 2 ans avec le clip de Prophétie, là. Donc, c'est cool de se voir récompensé. Puis là, c'était le prix du public. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un jury qui a choisi, là. C'est vraiment le public qui a voté. Donc, là, je trouve ça cool. Et ça aurait été le jury, j'aurais été gêné parce que, en vrai, encore une fois, ce clip-là, on l'a fait avec peu de moyens. Vraiment un peu dans la déconnade, un peu en dilettante. Après, vu que les gars sont forts et que, tu vois, il y a des moments, des climax avec ma grand-mère et des trucs, c'est ça qui plaît.
Parce que dans le clip, alors on va un peu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le clip de Quel Dommage, ce qu'on y voit, de quoi ça cause?
Ouais, ça cause. En fait, on s'est dit, il n'y avait pas vraiment de fond pour le coup, il n'y avait vraiment que de la forme. On s'est dit, vas-y, on va se mettre dans des endroits un peu cool et un peu typés. Donc, dans un cabinet dentaire, chez le coiffeur, à l'EHPAD avec ma grand-mère.
Sur une table de tatouage.
Voilà, c'est ça, chez le tatoueur. C'est vraiment, on s'est dit, on prend des lieux, on prend des gens et puis on fait cette chorégraphie là avec eux.
Alors cette chorégraphie, c'est un mouvement d'épaule, un mouvement de bas en haut, genre, bon ben, tant pis.
Tant pis, quel dommage quoi, ouais. C'est une prochaine fois.
Et avec ta grand-mère dans le clip.
Et avec ma grand-mère de 95 ans qui a joué plutôt très bien.
Qui a une énergie folle d'ailleurs.
Ouais, bah puis surtout elle a toute sa tête quoi, donc c'était pas un problème pour elle.
Toi, c'est une part de ton esthétisme, de ton esthétique d'artiste, de vouloir aussi mettre l'accent sur tes clips.
Alors,
ça passe aussi beaucoup par le visuel, ce que tu proposes.
Bah franchement, j'ai dit un truc, moi ça me saoule les clips.
Ah ouais.
Ouais grave. Ça me saoule parce qu'à chaque fois on n'a pas d'argent, à chaque fois, enfin tu vois, ça demande beaucoup. C'est quand même un autre métier. Hein. Moi, je fais de la musique à la base. Hein. J'aime bien être en studio, j'aime bien écrire, composer, faire des concerts, faire des clips, faire des vidéos. C'est encore un autre métier. Alors, j'adore trouver des bonnes idées, j'adore tourner, même jouer, me mettre en scène. J'aime bien faire ça, mais là tout on a enchaîné, là on est encore en tournage, on enchaîne les clips, à chaque fois on n'a pas de thunes, donc faut trouver des idées simples mais qui marchent quand même. Moi j'ai toujours peur, même si j'ai de moins en moins peur parce que maintenant j'ai confiance vraiment dans les gars avec qui je travaille, mais j'ai été tellement déçu. Enfin tu sais, des clips j'en ai fait quand même pas mal avec tous les groupes que j'ai eu, et il y en a certains qui sont foireux et tu te dis c'est en fait un mauvais clip ça peut vraiment te flinguer ton morceau quoi. Ça peut te flinguer ton morceau, ça peut te flinguer ton image. Si tu fais ça peut flinguer ton projet en fait. Alors que c'est dommage, le morceau peut être bon, si le clip est éclaté, c'est pas bon.
Là, affamé, on va s'attendre, on peut s'attendre à quoi ?
Eh ben, aucune surprise. Ça va être, enfin, aucune surprise.
Que des surprises. Ça.
Ouais, non, mais ça va être un clip. C'est un clip que j'ai fait avec du coup avec Nicolas Javanchir. Je suis allé à Lille chez lui là pour faire le shooting photo pour l'album. Et du coup, il avait une idée, ce qui fait aussi un peu de vidéo. Et du coup, il m'a proposé une idée. Il m'a dit, bah, c'était un morceau, là, comme ça, on peut faire un truc. Et du coup, on a fait un truc. C'est très simple. Mais je vous dis pas ce que c'est. Faudra aller voir.
Affamé, ça sort la semaine prochaine, le 25 mars, sur toutes les plateformes. Et évidemment, sur YouTube pour aller voir le clip. Merci beaucoup, Nerlof, d'avoir répondu à nos questions dans Starting Block sur toutes les radios campus de France. Ton album Pas si grave, ça sort mi-mai.
Ouais. C'est ça, carrément, j'ai trop hâte. Et puis release party le 13 juin à la Boule Noire à Paris, donc là faut la remplir cette salle, ça me stresse de ouf. Et le 14 juin au Shabada à Angers, voilà, donc on fait deux releases, une à Paris,
Paris,
la capitale, et puis une à la maison.
Trop bien, ben merci beaucoup Nerlof d'avoir répondu à mes questions. Restez bien à l'écoute de vos Radio Campus pour la suite de vos programmes, et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde.